qui veulent construire des bassines. Sanso, Sanso, c'est le marais qu'ils abîment. Sanso, Sanso, et pour un petit pourcentage, ils assécheront nos villages. Salaud, 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 nous devons les empêcher.
La chorale La Mélitante de Mel, donc.
Les enfants vont les aider. Il faut de l'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau, de l'eau. De l'eau.
Mel, dimanche 31 mars, récit et témoignage.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Et bienvenue à toutes et à tous.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Julien, c'est important de se retrouver un an après, ici à Sainte-Soline.
Bah ouais, c'est fondamental. C'est passé beaucoup de choses depuis un an. Le sujet est devenu quasi international aujourd'hui. Il y a eu cette opération de maintien du désordre et de grande violence policière qui a marqué les esprits, qui a marqué les corps, qui a marqué l'information aussi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, un des gros enjeux, ben, c'est de faire le récit de la vérité, c'est de se donner les moyens que ben, ce qui s'est passé ce jour-là reste dans les mémoires, et puis tel qu'il s'est passé réellement. Donc le gros enjeu d'aujourd'hui, qu'on a intitulé « Témoignages, récits et vérité », ça va être de présenter notamment tout ce qui fait trace, tout ce qui a été produit depuis un an. Je pense en particulier au bouquin fait par le collectif du Loriot « Avoir 20 ans à Sainte-Soline », qui est un témoignage croisé de jeunes qui ont participé à la manif et qui racontent comment ça s'est vécu pour eux et ce qu'ils en sortent et comment ils en sont sortis, grandis, affectés, et avec des sociologues et des géographes. Puis également, il y a eu le formidable boulot d'investigation mené par Off Investigation qui a réalisé deux documentaires de grande qualité sur les bassines. Un spécifique qui s'appelle « Mensonges d'État » et qui est sur la filière maïs et sur à quoi servent les bassines et quel système économique. Et puis celui qu'on sort aujourd'hui un peu en première nationale, qui est Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, et qui vient scrupuleusement et méticuleusement, chirurgicalement, reprendre tous les faits heure par heure. Un petit peu, moi, je considère que c'est une illustration du rapport de la LDH en vidéo, quoi. Très bien sourcé, avec de très nombreux témoignages.
Mesdames, messieurs, nous allons commencer, s'il vous plaît.
Le droit à manifester, c'est un droit constitutionnel.
J'ai l'impression que à cette détermination, ils n'avaient plus que la force à la fin à opposer, quoi.
C'est comme un parent qui bat ses enfants, quoi, en fait. Ils pensent que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas ça qu'il faut faire, en fait.
La manifestation du 25 mars 2023 à Sainte-Soline contre les méga-bassines fait déjà date dans l'histoire des luttes écologiques et sociales. Une répression brutale et disproportionnée pour ne protéger qu'un cratère sans encore la moindre infrastructure et quel qu'en soit le coût humain. Plus de 200 blessés, dont plusieurs très gravement, qui en garderont des séquelles physiques. Pour les 30 000 citoyens venus manifester, les blessures seront psychologiques et symboliques. Il est interdit de contester le modèle agricole écocide des méga-bassines, sauf au péril de sa vie. Les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont rendu, l'été dernier, un rapport accablant sur les violences policières commises ce jour-là à Sainte-Soline. Une stratégie de maintien de l'ordre réfléchie et mise en place pour traumatiser et tuer toute velléité de contestation. Un an plus tard, sur place, une journée de récits et de témoignages pour partager, se soigner et dénoncer, avec des projections des tables rondes organisées par BNM, Bassine, non merci. Sainte-Soline, un an plus tard, un an après le 25 mars 2023, vous étiez là en tant que membre de la LDH, hein, c'est ça, observateur, observatrice?
Alors, nous y étions à deux titres. Il y avait effectivement 21 observateurs qui sont allés sur la manif de Sainte-Soline avec une mission très précise d'observer ce qui se passait et qui ont fait leur rapport. Et il y avait la base arrière avec un avocat, donc c'est lui qui a notamment géré l'histoire du blessé, hein, de Serge. Et on avait une autre base à Mel, où nous tenions un stand pour informer des droits de chacun en cas de manifestation. Alors moi, j'étais donc sur la base arrière de Mel. Alors ce qu'il faut noter, c'est que dès le soir, quand ils sont revenus, les observateurs et nous, membres de la Ligue, on s'est dit on doit faire un communiqué de presse rapidement, puisque l'idée, c'est de faire un rapport circonstancié un mois dans la suite de l'observation. Là, vu les circonstances, c'était impossible. C'est pour ça que le rapport n'a été publié qu'en juillet. C'est un rapport très complet, 200 pages environ, alors qu'habituellement, ce n'est pas de cette ampleur. C'est pour montrer vraiment l'ampleur de cette manifestation, de ces violences et de tout ce que mes camarades observateurs ont pu voir de violence dans le nombre d'armes, de tout ce qui a été utilisé, et la manière dont les blessés, notamment les 4 blessés graves, ont été traités.
Le 25 mars 2023, en dépit d'intimidation de la part des autorités publiques, 18 observateurs et observatrices indépendantes étaient présents à la manifestation contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline.
Et il y a une grande chaîne humaine, tout le monde se donne la main et avance pour encercler la bassine.
Après un travail de plusieurs mois fondé sur des observations de terrain, recoupées à l'aide de témoignages et d'éléments matériels, les observateurs et observatrices versent au débat public un rapport minutieux relatif à la stratégie de maintien de l'ordre déployée, ainsi que le récit précis du déroulement de la manifestation. Dès le 24 mars 2023, le ministre de l'Intérieur avait averti que l'on verrait...
Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions.
Les autorités publiques ont alors mis en scène un maintien de l'ordre spectaculaire d'une très grande violence. Derrière une muraille de camions, 3000 gendarmes armés étaient rassemblés autour du chantier de la méga-bassine. Ces derniers ont attendu que les manifestants et manifestantes arrivent à proximité du chantier transformé en fortin et ont alors déchaîné une violence immodérée, donnant lieu à des images brutales. Face à un ennemi de l'intérieur éco-terroriste, construit depuis plusieurs mois par les autorités publiques, l'État devait réussir sa démonstration de force. En moins de 2 heures, plus de 5000 grenades ont été tirées, occasionnant au moins 200 blessés. Emportés par leur récit guerrier, les autorités publiques ont choisi de ne pas secourir des blessés en détresse vitale. Ne pouvant ignorer qu'un déploiement de force aussi démesuré et l'utilisation de matériel de guerre occasionnerait immanquablement des blessés, les autorités ont entravé les secours au mépris de la vie humaine.
Et donc vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait ?
Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès, je vous dis que c'est le commandement sur place.
Ok, comment on fait pour contacter le commandement sur place ?
Eh bien, il faut passer par la préfecture.
Pour Patrick Baudouin, président de la LDH, depuis Sainte-Soline, et malgré de nombreuses alertes, notamment des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le gouvernement persiste dans une logique liberticide et autoritaire de criminalisation et de répression des mobilisations sociales. Paris, le 10 juillet 2023.
C'est des putains désencerclants devant des gens qui sont pacifiques.
Bonjour, bonjour.
Étienne Douat, alors tu fais partie du collectif du Loriot, hein, donc,
ouais.
Qui est l'auteur, enfin le collectif a écrit ce livre « Avoir 20 ans à Sainte-Soline ». On s'est vu il y a plusieurs mois quand vous étiez en train d'écrire hein, ce recueil de témoignages et aussi d'analyses.
De parcours, ouais. De portraits. Et là c'est un jour un peu spécial parce que c'est la première fois qu'on le présente à Mel, à deux pas de Sainte-Soline, avec une bonne partie des organisateurs, de celles et ceux qui étaient à Sainte-Soline. Puis c'est aussi un moment de présentation du bouquin avec des gens qui ont été victimes, le documentaire de Off Investigation, donc il va dialoguer aussi d'une manière inédite avec les témoignages du livre.
On est près de 30 000 personnes aujourd'hui.
Et c'est là que moi j'ai vu les quads. Ça m'a vraiment fait penser à une espèce de spectacle de quads malsains, quoi.
Je pense que comme beaucoup d'autres, je me suis retrouvé isolé.
Avoir 20 ans à Sainte-Soline, sous la direction du collectif du Loriot, édition La Dispute. Matisse, autoportrait. Je ne vois pas comment éviter le mur, sinon en se battant vraiment. Entretien avec Camille Fougère et Sébastien Jousse. J'ai 18 ans, 17 au moment de Sainte-Soline. Je suis bachelier et fervent militant. Fervent militant, pour moi, c'est déjà participer aux manifestations et avoir les idées claires sur comment participer à un monde meilleur. Je suis très introverti, enfin pas mal. En manifestation, très extraverti. J'ai une certaine colère, mais en même temps, j'essaie quand même de kiffer la vie. Je ne préfère pas m'enfermer dans cette colère. J'ai vécu 10 ans à la campagne, et depuis l'âge de mes 11 ans, j'habite en ville. Je suis allé à Sainte-Soline seulement la journée du 25 mars. Quand je l'ai annoncé à ma mère, elle m'a proposé d'y aller avec des amis à elle, un couple de 40-50 ans. Tout le matin, je les rejoins chez eux et on va au parking du supermarché, le point de ralliement pour partir en convoi. Je me souviens pas exactement, mais j'ai eu l'impression que le trajet prenait du temps. On écoutait la méga radio de Sainte-Soline, créée pour l'occasion.
C'est Méga Radio, la radio éphémère et vénère des luttes du Marais Poitevin.
On est super bien réveillés et on est prêt à donner les infos à tout le monde.
Ça donnait quelques infos assez importantes sur la circulation, sur les autres convois venant des autres villes, sur le déroulement de la journée. C'était une web radio, un flux audio. C'était cool, ça avait l'air d'être des jeunes, le genre de profil que je pouvais voir en manif. Ils étaient drôles, une radio de militants. Pas une radio de contrôle qui dit quoi faire, mais une radio d'information pour aider les gens à arriver à bon port, parce qu'il y avait pas mal de policiers et de barrages sur la route.
Il y a du monde qui continue d'arriver en fait, c'est vraiment continu, c'est un flux continu, je vois tout le temps des gens sur les routes, là, des voitures qui arrivent, les voitures elles arrivent loin maintenant du camp parce qu'on peut plus se garer à proximité du camp, mais je vois en permanence des gens qui arrivent. Là on arrive en fait, on est encore loin mais on voit la bassine, là sur la droite de notre chemin.
Alors, je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai mis mon masque pour me protéger des gaz. Et là, en fait, on est en train d'encercler la bassine, on est en train de faire une chaîne humaine et on joue à 1, 2, 3 bassines.
Allô ?
Allô, oui, salut.
Salut.
On est arrivé, ça y est.
Faites attention à vous.
Et ben là, on est devant un beau cortège de camions bleus qui entoure les bassines. Du coup, on est rendu. On est le dernier convoi.
C'est bien. Bien. Demain.
Notre lutte vaincra tôt, tout tarde.
Antoine Chao.
Loutarde Canepetière.
Sur France Inter.
Emblématique du Marais Poitevin. Sainte-Soline, un an après, dimanche 31 mars, récit et témoignage.
Dans la salle, voir les différents stands qui s'installent.
Mais là, c'est l'espace saisine, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, Hélène, toi, tu fais partie des 73, hein, si on déposait une saisine auprès de la défenseuse des droits.
Ouais. Sur les 73, il y a 43 blessés et 30 personnes qui n'ont pas été blessées. Mais en fait, ça s'est révélé à l'usage que même si les personnes n'avaient pas été blessées physiquement, il y avait vraiment beaucoup de traumatismes et beaucoup de blessures psychologiques, y compris graves, avec des personnes qui étaient obligées de se mettre en arrêt de travail, qui étaient obligées d'avoir un suivi psychologique dans la durée à cause de ça. Donc, en fait, même au-delà des blessures physiques, quasiment toutes les personnes qui ont témoigné ont été blessées au moins psychologiquement, en fait, à Sainte-Soline. Donc bah, c'est comme ça, on a commencé à récolter tous ces témoignages et l'objectif dès le départ c'était de saisir la défenseure des droits puisqu'elle peut donner un avis ou des recommandations sur ce qui s'est passé. C'est pas une institution judiciaire mais par contre elle peut donner un avis. Donc on a récolté tous les témoignages, donc pour certains d'entre eux c'est accompagné de certificats médicaux, de photos pour vraiment attester des blessures et puis les témoignages écrits de gens qui racontent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu avec le maximum de détails. Et ça on a tout envoyé à la défenseur des droits le 5 décembre dernier. Donc ça y est, il y a les équipes qui sont en train de s'en occuper. Le but, c'est vraiment d'avoir un contre-récit et que nos voix elles soient entendues, en fait.
Je vous fais un vocal, là. Il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer et donc il faut en parler publiquement. Il y a un blessé extrêmement grave, en urgence absolue. Il y a une médecin qui était dans les médics qui dit que c'est une urgence absolue. Et en fait, quand on appelle le SAMU, le SAMU dit que les flics leur disent de ne pas venir, alors que la zone elle est totalement, voilà, il n'y a plus du tout de conflit, il n'y a plus de lacrymo, il se passe plus rien ici. Je le répète, c'est une urgence absolue, c'est une urgence vitale. Il y a deux médecins militaires qui viennent d'arriver. Voilà, ils ont du matos, donc ils ont plus de matos que les médics. Et eux, ils vont appeler le SAMU de leur côté, puisque on espère qu'ils seront un peu plus écoutés que nous. Voilà.
On est sur la place du marché de Mel, et donc là, je vous passe quelqu'un qui a un message très important et d'urgence à faire passer.
Oui, bonjour, c'est un message du centre médic de Mel. Donc, elle a besoin de personnel en renfort, donc des gens qui ont des compétences qui sont infirmiers ou médecins.
Ok,
voilà.
Merci beaucoup.
Et c'est dès le plus rapidement.
On va relayer l'information le plus possible, en tout cas dans les prochaines minutes. Merci beaucoup.
Ça marche.
Les sanglots longs des rivières poitevines blessent mon cœur d'un sec d'automne. Méga Radio, une radio éphémère de lutte et de résistance contre les méga bassines.
Je vais vous lire le témoignage d'Alix, 20 ans, gravement blessé à Sainte-Soline. Nous avançons, le nez et la gorge irrités par les lacrymos malgré les masques, dans un champ de guerre survolé par nos champs. Le cortège jaune a ouvert une brèche. Nous convergeons. Entre la fumée, la poussière, le bruit et la foule, nous ne savons plus où nous sommes, ce qu'il se passe autour de nous. Pour mieux voir, nous montons sur une piste surélevée, et me voilà au sol, le visage plein de sang. La grenade explose au niveau de mes pieds, quelques secondes plus tard. Le 25 mars dernier, comme beaucoup trop d'autres personnes, j'ai été gravement blessée par la main de l'État. Aujourd'hui, je vais bien, mais ce genre d'événement laisse des traces. Je suis restée finalement que très peu de temps sur place. Ensuite, je me souviens d'avoir eu froid, d'avoir senti en touchant l'intérieur de ma bouche avec ma langue que plus rien n'y était en ordre, d'avoir été transportée par mes amis et d'avoir attendu. Je me souviens de cette personne qui me rappelait simplement d'ouvrir les yeux pour ne pas partir, avec une douceur incroyable qui m'aurait fait sourire si j'en avais été capable. Je ne saisissais plus grand-chose à ce moment-là, et je ne saurais dire si c'était un médic ou un pompier, mais ce petit lien est resté gravé. Et puis, un peu plus tard, il y a eu aussi cet homme, un gendarme, à côté de moi dans l'hélicoptère. Son visage était fermé, mais ses yeux me fixaient et trahissaient une confusion. Comme s'il ne savait pas quoi penser, comme s'il ne savait pas très bien si ce qu'il voyait était réel, forcé de regarder quelque chose qu'il ne voulait pas voir et qu'il ne parvenait finalement plus à lâcher des yeux.
Merci à Julien Leguet et toute l'équipe de BNM, Bassine Montmercy, à Agathe de la Ligue des Droits de l'Homme, à l'équipe de Off Investigation, au collectif du Loriot et à l'Outarde Canepetière. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.